Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu le week-end du 6 et 7 octobre, la 31e édition du Festival des Clochers en Vallée de l'Automne. À cette occasion, les bénévoles des villages mettaient à l'honneur les traces de la Grande Guerre dans leurs églises. Je me suis rendu dans un premier temps dans l'église de Béthisy-Saint-Martin où se jouait la pièce de la compagnie La Fortune, 1918, La Paix Retrouvée.
8 novembre 1918. Ah ah, ça y est, ça y est, les troupes britanniques sont entrées à Lille. C'est la fin de l'empire austro-hongrois. L'Italie et l'Autriche signent l'armistice. Les alliés maintiennent la pression militaire et progressent sur l'ensemble du front. L'armée allemande épuisée se replie, tandis que la révolution gronde dans l'Allemagne. Ah, ah, finalement, les négociations diplomatiques ont abouti. Le train spécial du maréchal Foch va entrer en gare de Compiègne. Et l'armistice sera signé dans 3 jours, le 11 novembre, à 11h, à la clairière de Redon.
Hélène Lorca, bonjour.
Bonjour, je sors de scène, alors on ne peut mieux.
Alors vous, vous êtes la metteur en scène de la pièce 1918, La Paix Retrouvée.
C'est ça, et puis en même temps l'auteur, puisque c'est moi qui ai écrit les 3 volets. Voilà, été 14, des moissons et des hommes, 16, 17, peinture des années sombres, et puis 18, 19, La Paix Retrouvée, 3 petits points, parce qu'on sait très bien que malheureusement, c'est avec la difficulté et la dureté du traité de Versailles qu'en fait on a déjà mis en place toute la Seconde Guerre mondiale.
Donc cette pièce, vous l'avez dit à l'instant, elle date de 2013, c'est ça ?
C'est ça, on a commencé à réfléchir en 2013, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on participait au Festival des 35 Clochers. Et comme le centenaire de la Grande Guerre arrivait, on avait envie d'allier un petit peu tout ça. Mais surtout de se mettre à l'arrière et vraiment d'honorer les villages et toutes les femmes et des gens comme les mères ou les hommes qui étaient trop âgés pour partir au front, qui avaient dû complètement réinventer l'organisation de la vie pour faire face à tous ces hommes partis au front.
Donc le pitch de cette pièce, au début, ça commence en 1917, c'est ça ?
Alors, ce verse-là, oui. On arrive en avril 1917, puisque c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Et ça a complètement commencé à aider la guerre à changer de regard, puisqu'ils ont amené des hommes. Mais alors, ça a été très long, parce qu'au départ, ils les étaient très peu. En plus, ils n'étaient pas formés. Il n'y avait pas d'armée militaire encore, enfin, de militaire de carrière, je veux dire. Mm-hmm. Donc, ça a été très lent. Ça a été un petit peu compliqué entre les armées anglaises, françaises et américaines pour trouver chacun sa place. Et puis, au fur et à mesure, voilà, une armée de corps s'est formée. Et vraiment, on a eu énormément d'aide et même des victuailles et des choses qui sont arrivées au fur et à mesure et qui ont aidé le conflit à ne pas s'enliser justement et à enfin se terminer.
Combien il y a d'acteurs dans la pièce ?
Alors là, nous sommes 10. C'est une grosse distribution et ça, c'est merveilleux de pouvoir gérer des choses pareilles parce que c'est très rare d'avoir autant de comédiens au plateau. Mais en même temps, ça permettait d'avoir des gens de tous les âges, les femmes, les hommes qui reviennent du front. Enfin voilà, ça rend ça très vivant.
Quel rôle vous jouiez, vous, à l'intérieur ?
Alors moi, je suis une institutrice, je m'appelle Blanche. Et en fait, je fais partie des premières institutrices qui ont eu le droit d'enseigner aux garçons. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, les hommes enseignaient aux garçons et les femmes aux petites filles. Et comme dans la pièce, en 14, mon mari part et meurt au front fusillé, eh bien, j'hérite voilà, de son poste. Et en même temps, c'est assez compliqué pour le personnage de Blanche au fur et à mesure de l'évolution. Parce que comme son mari est fusillé parce qu'on le prend pour quelqu'un qui a déserté, alors que c'est faux, ça a fait partie des fameux fusillés de 20 gré. Voilà, donc on se rend compte que c'est très difficile pour les femmes aussi de faire face. Et puis celles qui sont à la ferme, il faut faire les travaux des champs, il faut tout gérer sans les hommes. C'est très compliqué, mais ça nous a aussi donné beaucoup d'autonomie. Je dis nous comme si c'était... voilà, on a hérité de ça, de nos aïeuls.
Les faits historiques à l'intérieur sont précis et exacts ?
Oui, j'ai énormément eu d'aide. Alors, bien sûr, il y a Jean-Marie Tomasini, qui est l'historien, comme je dis, de la Vallée de l'Automne, qui m'a donné accès à énormément de documentation que lui avait collectée pendant des années et des années, puisqu'il a toujours été très touché par cette guerre. Il m'a aussi confié énormément de lettres qui appartenaient à son grand-oncle et à son grand-père, la famille Jouignon de Bonneuil-en-Valois. J'ai également travaillé avec les écrits et le livre des mémoires du général Mangin, toutes les lettres qu'il écrivait à sa femme, parce que ça a permis vraiment de voir ô combien, même à l'intérieur de l'armée, il y avait des dissensions, comment Pétain soutenait, mais en même temps soutenait pas forcément le général Mangin, alors que c'est lui qui, avec cette fameuse bataille du 18 juillet, a commencé à faire basculer la guerre.
C'est particulier de jouer dans une église ?
Oui, c'est moi j'adore. On sent le mystère, on sent en même temps, on y célèbre la vie, on y célèbre la mort, et la pièce parle de ça.
Là, vous avez fait la totalité ou c'était une version courte de la pièce ?
Alors, c'est le dernier volet, donc le dernier volet est en entier, dure 45 minutes, mais la pièce en entier, quand on va jouer la trilogie, va durer 2 heures, puisque le premier volet dure 35 minutes, le second 45 minutes et le dernier 45 minutes.
Rendez-vous le 11 novembre à Crépy-en-Valois.
C'est ça, à 16h, gymnase Marcel Quentin, donc c'est gratuit, mais par contre, il faut réserver à l'Office du tourisme ou à la municipalité de Crépy.
Hélène Lorca, merci.
Merci à vous.
Après Béthisy-Saint-Martin, direction l'église de Néry, où j'ai rencontré le maire du village, Monsieur Claude Picard.
Oui, bonjour.
Alors, ce week-end, vous vous êtes, entre guillemets, improvisé guide de votre église, c'est ça ?
Oui. Donc, on présente notre église, bien sûr, au public. Et, je réponds aux questions quand c'est de ma compétence. Hein. Je ne prétends pas tout savoir sur notre église. Mais bon, on peut au moins retracer un peu l'évolution et les travaux de notre église au cours des dernières années.
Alors, est-ce qu'on peut déjà faire l'historique ? Quand a été édifiée cette église, monsieur ?
Elle a été édifiée pour le chœur, c'est du 13e. Après, pour la nef, il y a des parties 17e, 18e et même 19e. Bien sûr, comme la plupart des églises, elle a subi des transformations au fil des siècles.
Qu'a-t-elle de particulier, cette église ?
Elle est notamment dotée d'un clocher pierre très élancé, et ça, on peut le voir de loin. Donc, c'est peut-être un peu une caractéristique de certaines églises de la vallée de l'Automne, mais à part que celle de Néry, un clocher vraiment très élancé d'ailleurs, qui culmine à 37 mètres.
C'est une église de type romane ou de type gothique ?
Alors, dans le chœur, vous avez des parties romanes. On retrouve un 13e, et puis après, bien sûr, tout est gothique. Hein, toutes les transformations qui sont intervenues après sont gothiques. Oui.
Est-ce que vous avez eu de nombreux visiteurs pendant ce week-end ?
Eh bien, non, on n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Si on en a eu au cours de la journée, une petite vingtaine, c'est tout. Alors, probablement à cause du temps qui n'était pas très agréable aujourd'hui. Par contre, hier, la pièce de théâtre, on avait une cinquantaine de spectateurs et la troupe. Je pensais que c'était bien pour un village de notre dimension. En tout cas, nous, on était ravis de cette prestation de la troupe La Fortune. C'était vraiment superbe et remarquable.
Alors, est-ce qu'on peut parler des travaux, monsieur, qui ont été réalisés, vous me disiez tout à l'heure, en 2014 ?
Oui, en 2014, on a eu une tranche de travaux importante sur notre édifice, hein, notamment tout le clocher qui a été repris depuis sa base jusqu'au faîte. Beaucoup de pierres ont été changées, la maçonnerie a été consolidée, les joints intérieurs, extérieurs, on l'a rehaussé d'1,50 m pour le mettre à sa hauteur d'origine, parce qu'au fil des années, ou des siècles peut-être, des parties étaient tombées et il était un peu raccourci. On a replacé la croix, le coq, au cours d'une cérémonie d'ailleurs, avec l'abbé qui l'a béni. Voilà, tout ça est un cérémonial, la remise du coq, la remise en place du coq. Et puis, on a aussi refait toute la toiture de la sacristie, on a refait les plafonds, les solivages de la sacristie. On a refait un drainage périphérique de l'église qui, aujourd'hui, 4 ans après, on s'aperçoit que C'est un bienfait pour notre église, parce que tous les soubassements qui étaient verts d'humidité sont bien assainis. Et puis on a aussi, à la base de notre clocher, remplacé le beffroi qui étaient des poutrelles métalliques sur lesquelles étaient posés les berceaux des cloches. Et là, on a remis un beffroi-bois en place avec nos cloches. Et aujourd'hui, on rythme le temps des heures et puis de l'Angélus, etc., sans risquer de mettre notre édifice en péril. Voilà, donc c'était une belle tranche de travaux, 400 000 euros quand même. Bien sûr, aidé par l'État, aidé par le département, sinon on n'aurait jamais pu. Mais voilà, donc il y a encore bien entendu des travaux importants à faire dans cette église. Il y en a toujours dans une église si on veut la restaurer de fond en comble. Mais on s'estime quand même satisfait d'avoir pu préserver l'édifice et puis de le transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures. Après, charge à eux de faire d'autres choses.
Part durant ces week-ends des 35 clochers, elle n'est pas ouverte au public, votre église ?
Y a une messe une fois par mois. Hein, monsieur le curé ne peut pas faire des messes. Il a trop d'églises en charge. Il n'arrive pas à faire des messes. Voilà. Bon, après, elle est ouverte, bien sûr, pour les baptêmes, pour les enterrements. On aimerait bien la laisser ouverte pour la faire découvrir. S'il n'y a personne pour assurer le gardiennage, on prend des risques.
Est-ce qu'on pourrait parler, monsieur Picard, du très beau retable qu'on voit au fond de l'église, s'il vous plaît ?
Alors le retable, c'est vrai qu'on avait déposé le retable pendant ces travaux en 2014. On pensait le restaurer et puis finalement il y avait beaucoup plus de travaux que prévu. De ce fait, on l'a reposé simplement en le consolidant. Et c'est vrai qu'on a une toile peinte qui représente le Christ avec deux personnages que je ne pourrais identifier. Dans un premier temps, on s'était dit que ça n'avait pas trop de valeur, c'était pas exceptionnel. Et puis, il se trouve que finalement, la direction régionale des affaires culturelles a souhaité que ce soit inscrit. Donc aujourd'hui, cette œuvre est inscrite. Mais par la suite, c'est sûr qu'il serait bien de refaire complètement le retable. Et vous avez tout en haut ce vitrail qui représente Saint-Martin, oui. Puisque c'est l'église de Saint-Martin. Donc sur son cheval, en train de couper en deux son manteau pour en donner la moitié à un pauvre.
Ce vitrail, il est présent dans beaucoup d'églises de l'Oise.
Ah oui, là. Ici, il a sa place, hein, l'église Saint-Martin, pas de problème.
On a à l'entrée aussi des vitraux avec des couleurs intéressantes. Hein. On a du bleu turquoise.
Je pense que ce n'est pas exceptionnel, hein, d'après les maîtres verriers. C'est ce qu'on rencontre à cette époque, hein, 18e, 19e. Par contre, on a de beaux vitraux dans le cœur. Il y en a notamment deux qui proviennent de la chapelle de Vérine, qui sont des vitraux beaucoup plus anciens, qui ont une grande valeur. Voilà. Ceux-ci ne sont pas datés, mais à Vérine, il en reste encore deux et ils sont datés de 1541. C'est vrai que le maître verrier s'accorde à dire que c'est quand même des vitraux assez exceptionnels. Donc, deux de Vérine sont arrivés à Néry. Bon, on est en train de restaurer la chapelle de Vérine actuellement et on a une première partie de travaux là qui va se terminer d'ici la fin de ce mois. Certainement on entamera une deuxième tranche de travaux rapidement parce qu'il y a encore des travaux d'urgence et de consolidation à faire. Et l'an prochain on pourra ouvrir l'église de Vérine à la visite. Voilà. Et on y a fait des découvertes exceptionnelles. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais l'an prochain il y aura de belles choses à voir à Vérine.
On rappelle pour les auditeurs que Vérine est un hameau qui est collé à Néry.
Oui, tout à fait. C'est un hameau qui compte à peu près 80 habitants, voilà. Mais qui a sa chapelle, parce que jusqu'en 1800 et quelques, Vérine était une commune.
On espère que pour la 32e édition en 2019, le public pourra la...
Ah oui, absolument, voilà, absolument. On leur montrera des choses intéressantes, puisqu'on a découvert dans le cimetière les fondations... du transept droit. L'église était un peu désaxée, on peut dire. Il y avait le transept gauche qui avait été muré d'abord, où on y avait fait la sacristie. On a abattu le mur et puis on a retrouvé le transept droit dans le cimetière. Voilà. Bon, pourquoi il n'y a plus que les fondations ? Pourquoi a-t-il été détruit ? Un effondrement ? Les guerres ? On ne sait pas. Mais voilà, on sait au moins que l'église avait un transept du côté droit.
Eh bien, monsieur Picard, merci pour toutes ces précisions. C'était fort intéressant de parler de l'église Saint-Martin de Néry et ainsi que de la chapelle donc de Vérine.
Voilà, merci à vous. Voilà, j'espère que le public est intéressé quand il vient visiter nos édifices. En tout cas, nous, on est très heureux de leur présenter nos églises. Au revoir.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc en ce dimanche 7 octobre dans deux églises différentes, celle de Béthisy-Saint-Martin, puis ensuite celle de Néry, dans le cadre de la 31e édition du Festival des Clochers en Vallée de l'Automne. Merci de votre écoute, au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.